Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de votre constante fidélité aux éditions de Studio Tamani. Il est 18h dans ce studio, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le Mali et le Burkina ont adopté 28 projets de collaboration dans les secteurs vitaux à l'issue de la 10e session de la grande mission commission mixte. La rencontre a pris fin ce lundi à Bamako. Une délégation ministérielle du Mali et du Burkina s'est rendue ce lundi à Niamey au Niger. L'objectif est d'instaurer un climat de confiance entre les trois pays. Des licenciés de la société Pulmasa Plus réclament leurs droits. Ces agents sollicitent l'aide des plus hautes autorités. Le développement dans un instant avec Adama Amadou Haïdara à la mise en onde Salim Djouara. La 10e session de la Grande Commission mixte du Mali et du Burkina Faso a pris fin aujourd'hui à Bamako. La rencontre a débuté depuis le 5 août dernier avec les experts des deux pays. 28 projets de collaboration sur les secteurs vitaux ont été élaborés. À l'ouverture de la rencontre, les ministres des Affaires étrangères du Mali et du Burkina sont revenus sur les défis qui se posent à leurs pays respectifs. On en sait plus avec Mariam Koulibaly.
Raffermir les relations de coopération bilatérale dans tous les domaines. C'est l'objectif premier de cette 10e session de la commission mixte Mali-Burkina. Madame Olivia Rwamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, nous présente ainsi le bilan de la rencontre préparatoire.
Une liste de 28 nouveaux projets d'accords de coopération. Et ces accords touchent la justice, l'administration du territoire et la sécurité, l'économie et le commerce, la certification des normes, la recherche scientifique, la diplomatie, le transport, l'action sociale et humanitaire, la jeunesse, les mines et les carrières.
Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, soutient que tous ces sacrifices n'auraient pas de sens si les populations depuis la base ne ressentent pas l'impact de cette collaboration.
Parce que si nos populations ils ne sentent pas que les choses ont bougé entre nous, s'ils continuent à subir les tracasseries sur les routes entre nos deux pays, c'est que nous avons failli. Donc j'en appelle tous les responsables administratifs, à nos policiers, à nos gendarmes. Il faut que nous mettons en place les mécanismes de facilitation.
La session d'aujourd'hui permettra aux autorités des deux pays de parachever les différents documents et d'aller vers leur mise en œuvre.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Air France a suspendu ce lundi ses vols à destination du Mali, du Niger et du Burkina Faso jusqu'au 11 août prochain. Cette interruption intervient après la fermeture de l'espace aérien du Niger suite à une menace d'intervention militaire de la CEDEAO. Comme annoncé dans les titres, une délégation ministérielle du Mali et du Burkina s'est rendue ce lundi à Niamey au Niger. L'objectif vise à instaurer un cadre de concertation et de consultation entre les trois pays par rapport à plusieurs secteurs, notamment la paix et la sécurité. Au même moment, l'ultimatum donné par la CEDEAO à la junte nigérienne de céder le pouvoir a expiré hier dimanche. Fatia Tara.
La mission devra s'entretenir avec les autorités nigériennes, a-t-on appris auprès d'une source à la Primatir. Plusieurs sujets seront sur la table. Il s'agit notamment des voies et moyens visant les resserrements des liens de convivialité, d'entente et de solidarité entre les Niger, les Burkina Faso et les Mali. Par ailleurs, plusieurs associations et regroupements maliens ont manifesté ce dimanche à Bamako pour soutenir les Niger. Les associations des ressortissants du Niger ont aussi organisé une marche pacifique. Cette marche est partie du monument Contron Nissané à l'ambassade du Niger au Mali où les ressortissants ont lu une déclaration devant les autorités. Cette visite intervient alors que l'ultimatum de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur le Niger a expiré ce dimanche soir. L'organisation exige à la junte nigérienne de restituer le pouvoir de Mohamed Bazoum, faute de quoi elle s'expose à une intervention militaire de la CEDEAO.
Quelles sont les attentes des jeunes et des femmes dans la relecture de la charte des partis politiques? La question était au cœur d'un atelier tenu la semaine dernière à Bamako. Cette journée d'échange vise à améliorer l'implication des jeunes et des femmes dans le processus de réforme politique et institutionnelle. L'initiative est du Consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes, avec l'appui de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Mahamman Babakunta.
Cette rencontre veut favoriser un cadre d'échange entre le consortium et le ministère délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles. Elle sera aussi une occasion de partager des recommandations sur la charte des partis politiques. Mamadou Sansiba, porte-parole du consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes.
Nous avions organisé des jours d'atelier et les recommandations issues de cet atelier de réflexion. Nous nous sommes dit qu'au moment opportun, il faudrait le partager avec les autorités.
La ministre chargée des réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sékou Diko, pense que cette initiative peut contribuer à améliorer le niveau de participation des jeunes dans les processus électoraux.
Ce combat doit se traduire par un engagement interne, par la formation, par le fait de vous imposer. Donc c'est vous dire d'insister sur votre combat au niveau interne d'abord du parti pour veiller au respect de vos droits et à la reconnaissance de vos efforts.
Notons que plusieurs organisations de jeunesse et de femmes ont pris part à ces séminaires. Il s'agit entre autres du réseau des jeunes des partis politiques du Mali et le réseau des femmes pour la consolidation de la paix.
Des agents licenciés de la société Pilmasa Plus demandent à être mis dans leurs droits. Selon eux, leur ancien employeur les a mis à la porte sans préavis. Sunkalo Dambélé, un de ses agents, affirme que cette situation est en cours depuis août 2021. Il demande l'intervention des plus hautes autorités. Il réagit ici au micro de Mariam Koulibaly.
On avait un contrat à durée indéterminée avec Pilmasa. Au moment de notre licenciement, au pointage, déjà on avait 15 jours de non-payé, en plus du droit bulletin. Ceux qui ont 19 ans d'exercice dans la boîte ont reçu 300 000 francs comme droit et ceux qui étaient à 20 ou 22 ans ont reçu 500 000 francs. C'est à la suite de ça qu'on a saisi le tribunal de commerce de Kulikoro. Ces derniers nous ont donné raison et ont demandé aux responsables de Pilmasa de nous payer nos droits et indemnités. Mais ils ont fait un appel. L'affaire est à la cour d'appel depuis août 2021. Jusque-là, on n'a pas eu de suite. Nous demandons aux autorités maliennes d'intervenir et de demander à Pilmasa de nous mettre dans nos droits parce que c'est un abus.
Nos tentatives pour joindre les responsables de Pilmasa Plus sont restées vaines. Des images prétendant montrer le départ des forces armées maliennes au Niger ont été largement partagées sur les réseaux sociaux ce dimanche. Cela alors que l'ultimatum de la CEDEAO est arrivé à expiration. S'agit-il d'une information vraie ou fausse? Fatoumata Kodjo l'a vérifié pour nous.
En légende de ces images, on peut lire « Les forces spéciales maliennes sont en route avec des équipements de combat pour le Niger. Ces équipements sont constitués de 8 avions d'attaque Albatros, 8 hélicoptères de combat et de transport, 3 drones et 2 avions de transport. » Mais après vérification, on peut dire que ces publications sont des fake news. Grâce à une recherche inversée, on a retrouvé plusieurs de ces images publiées sur des sites d'information. En effet, certaines de ces photos remontent à plusieurs années. C'est le cas de ces images des forces armées sur différents théâtres d'opération en 2018. Il y a aussi des images de réception d'équipements militaires venus de Russie en 2022. La CEDEAO a menacé il y a une semaine d'user de la force si le président de Chine, Mohamed Bazoum, n'était pas remis dans ses fonctions. Cet ultimatum a expiré ce dimanche. Le Mali et le Burkina aussi ont déclaré qu'une intervention militaire serait une déclaration de guerre à leur encontre.
Dans la chronique Zoom sur d'aujourd'hui, on s'intéresse aux enfants intouchables dans les familles et il s'agit là des homonymes du vieux ou de la vieille. Aïssata Diarra.
Chacun de vous a probablement un cas pareil à la maison. Le nôtre, c'est ma petite sœur de 12 ans qui porte le nom de ma grand-mère, Bakadja. Dans la famille, on l'appelle affectueusement Kadi ou Msokoroba Toroma, autrement dit, l'homonyme de la vieille. C'est le seul enfant dans la famille à qui tout est permis. Si elle refuse de manger la même nourriture que les autres, la grand-mère exige à ce qu'on lui trouve ce qu'elle veut. Il ne faut surtout pas essayer de lui porter la main. Tu entendras, Ntoroma ne fait rien de mal, mais c'est toujours elle qu'on frappe. C'est à moi que vous en voulez finalement? Que personne ne la touche encore. La vieille arrive même à refuser de s'alimenter. Des enfants qui, au fil du temps, deviennent très capricieux. Comme le dit cet adage, qui aime bien châtie bien. Nos papis et mamies, en grandissant, ne diront pas le contraire.
Qui aime bien châtie bien, une chronique signée Aïssata Diarra. Et nous recevons à présent Sékou Gadjigo pour l'introduction du Grand Dialogue de ce soir. Bonsoir Sékou.
Bonsoir Adamo.
Alors le Grand Dialogue d'aujourd'hui va parler de quoi?
Sahel, cause et conséquence d'une instabilité chronique, c'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Nos invités sont Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat et observateur politique, Alassane Nama Tchao, spécialiste en gestion de conflits social, Ibrahim Maïga, spécialiste des questions sécuritaires.
Merci Sékou, bon débat, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, le magazine Malikoura et juste après, vous retrouverez Sékou Gadjigo et ses invités. Un bon début de soirée à tous.
Chers parents, encouragez vos enfants à participer au jeu École à la radio sur Viamo.
Pour participer au jeu, c'est facile. Appelez gratuitement le 37 3 2 1. Passez le téléphone à votre enfant. Il va suivre les indications et réviser des leçons en calcul et en français.
Aidez vos enfants à réviser leurs leçons de calcul et de français. Je rappelle le numéro gratuit à composer. 37 3 2 1.
Le jeu École à la radio, c'est avec Studio Tamani,
le ministère de l'Éducation nationale, Viamo et l'UNICEF.
Notre magazine Malikoura s'intéresse à la recrudescence des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Ces dernières années, les régimes démocratiques sont tombés en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et plus récemment au Niger. Tous des pays membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quelles peuvent être les causes de ces changements anticonstitutionnels? Notre reporter Moussa Malé Sissoko a interrogé les juristes et analystes politiques. Suivons leurs réponses dans ce numéro de Malikoura.
Le coup d'État le plus récent est celui perpétré au Niger le 26 juillet 2023 par un groupe de militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Le chercheur indépendant en relations internationales N'Golo Diarra évoque des facteurs qui favorisent le putsch dans la région, notamment l'échec du système éducatif.
L'éducation est bafouée dans ce pays, c'est pourquoi la jeunesse sont toujours instrumentalisée. Et deuxième facteur, le cas de terrorisme qui a beaucoup impacté, et surtout les cas maliens, du Niger et du Burkina Faso. Et ce sont ces difficultés sécuritaires en réalité qui ont révolutionné des officiers à prendre le pouvoir. Troisième facteur, ça c'est la volonté des puissances occidentales de piller l'Afrique.
Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat au barreau malien, affirme que ces changements anticonstitutionnels résultent de la faillite du modèle démocratique dans ce pays. Il pointe du doigt les mascarades électorales, violation des droits de l'homme, la corruption et le manque de vision de développement des dirigeants. Maître Cheikh Oumar Konaré.
On assiste à une faillite des systèmes dits démocratiques en Afrique, mais les pouvoirs civils qui ont été installés ont régné dans la plus parfaite illégalité. Il y a eu une mauvaise gouvernance généralisée, des centaines de milliards détournés. Ça a débouché sur le désenchantement populaire. C'est parce que tout simplement la population est déçue des hommes politiques.
Maître Konaré estime que le seul remède au coup d'État est la bonne gouvernance.
Il faut attendre que le peuple découvre les failles de la gouvernance militaire. C'est parce qu'on a eu 30 ans pour vérifier qu'effectivement les régimes civils ne valaient rien. Les civils ne peuvent plus bien diriger. C'est ce qui explique que la population adhère à la cause des militaires. Il n'y a aucune solution, aucune autre que la bonne gouvernance. Tant qu'il y aura mauvaise gouvernance, il y aura coup d'État. L'un appelle l'autre.
L'enseignant-chercheur en sciences juridiques et politiques de Bamako, professeur Jérémy Koulibaly, abonde dans le même sens.
La mauvaise gouvernance dans tous les sens et la crise sécuritaire qui sont vraiment mis en avant. Quand les militaires arrivent au pouvoir à travers un coup d'État, surtout la zone du Liptako-Gourma, on met aussi en avant la question du choix des partenaires. Sur le terrain, l'appui des partenaires est vraiment très important pour lutter contre le terrorisme dans la zone du Sahel. L'armée est là pour sécuriser le pays. Donc si l'armée n'a pas les moyens nécessaires pour sécuriser le pays, ça amène des frustrations.
L'universitaire explique que les militaires prennent le pouvoir pour chercher plus de moyens tactiques et d'appui nécessaires afin de combattre le terrorisme au Sahel.
Dans le cas du Mali, c'est la population qui avait poussé le président à la démission et l'armée est venue parachever. Le cas de la Guinée, le président sortant venait de briguer un troisième mandat en violation des dispositions constitutionnelles. Je pense que la voie royale pour endiguer le phénomène des coups d'État, c'est vraiment la bonne gouvernance. On a beau écrire l'interdiction des coups d'État dans la Constitution, ça ne résout pas vraiment.
Pour rappel, des chercheurs américains Jonathan Powell et Clayton Taine, 45 des 54 États africains ont subi au moins un coup d'État. Par ailleurs, ils notent une augmentation significative de renversement des pouvoirs ces deux dernières années au cours desquelles des militaires ont pris le pouvoir au Burkina Faso, au Soudan, en Guinée, au Tchad, au Mali et au Niger.